gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Figgets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Amis auditeurs, amis auditrices, il est 22h et une petite minute et c'est l'heure du retour au direct avec la causerie qui débute. Et ce soir dans le studio, nous avons Fab.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Yves à la technique.
Bonsoir, et oui, nous sommes que deux ce soir.
Hey.
Mais c'est pas grave, hein, on va quand même vous tenir compagnie et vous nous tiendrez compagnie aussi, n'est-ce pas?
Et
on,
puis,
on fait un petit bisou à Clara.
Bah oui.
Si elle nous écoute, ce qui n'est pas sûr. Oui, en dehors du dimanche, elle nous déteste.
Que le dimanche de 22 à 23.
À 23h, effectivement.
Ouais, temps,
et ben, ce soir, une causerie, ben, comme à son habitude, on va causer. Et c'est Fab qui, ce soir, va nous causer d'extrême droite au pouvoir et de théorie du genre.
Oui, oui, alors, parce que... Ben bon, c'est le retour de la vengeance, du retour de la théorie du genre. Alors la théorie du genre, je vais déjà le rappeler, c'est une fake news, hein, ça n'existe pas. Donc il va falloir quand même retenir le nom de la petite ordure qui sert aujourd'hui de ministre délégué à la réussite scolaire, alias Alexandre Portier. Oui, alors Alexandre Portier, il est ministre. Bon, alors nous on le connaît quand même un peu à Lyon et en région Rhône-Alpes, hein, parce que c'est un proche de Laurent Wauquiez. Puis alors, un proche-proche, hein, et c'est aussi un proche des milieux catho-intégristes. Pardon, il paraît qu'il faut dire conservateur.
Ok, voilà. Évidemment. Ouf, voilà. Il n'y a plus d'extrémistes, il n'y a plus
d'extrême droite.
Ça n'existe plus en
France. Non, c'est la droite de la droite.
Oui, c'est ça.
voilà, bon, bref.
Par contre, il y a une extrême gauche qui n'est pas vraiment d'extrême gauche.
Non,
bon,
c'est
bon, le LFI est d'extrême gauche, vous m'appellerez. c'est oui. C'est...
Bah, quand on est à confondre les social-démocrates et l'extrême gauche. Voilà. bon, bref. Alors, tout ça pour dire que, bon, il est proche des milieux quand même intégriste catholique. Oui. Il est le relais de la manif pour tous, hein. Voilà. Et il est aussi militant contre l'IVG. C'est un mec bien.
Oui. Très dans l'air du temps, quoi.
Hein, voilà, on sent le gars progressiste, ouvert, tout ça. Enfin voilà. Et donc, je plaisantais, hein, quand je dis que c'est un mec bien, hein, parce que je fais attention maintenant, parce que les gens ils ont du mal avec l'ironie. Et donc, ce mec que l'on aurait classé quand même à l'extrême droite à une époque. Pas si lointaine, hein, voilà. si nous n'étions justement pas dans une époque étrange, hein, où les curseurs se perdent, comme tu le soulignais très bien, Jean-Yves, bah, il est ministre et il est nommé pour s'occuper des enfants dans l'éducation nationale et de leur réussite. Voilà.
Et quoi de mieux qu'un intégriste religieux pour s'occuper des enfants? Là, on est vraiment sûr que ça va être super pour eux.
Mais oui. Surtout dans un pays qui, soi-disant, a fait un truc qui s'appelle la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais et bon.
Ouais.
Donc, Portier, alors je sais, je vais quand même pas lui donner du monsieur, hein, c'est pas non plus déconner. Il a fait une sortie au Sénat devant ses pairs, vu que le Sénat est majoritairement aux mains de proches de Laurent Wauquiez. Donc, en gros, c'est un petit peu comme si De Villiers était allé parler au Puy du Fou. interpellé quand même sur le futur programme à l'éducation et à la vie affective, relationnelle et sexuelle, je vous rappelle que c'est le nom officiel de ce programme, le ministre a donc expliqué qu'en tant que père de famille. Alors ça, c'est quand même le truc des réacs, hein, oui. C'est bien connu que les personnes progressistes ne sont jamais parents. A priori, hein, nous ne sommes pas père ou mère de famille. Voilà.
Et même, j'ai envie de dire...
Et même si tu n'es pas, où est le problème ?
Est-ce que père de famille ou mère de famille est garant de quoi que ce soit ?
Ah, de rien. Mais c'est juste que les réacs, systématiquement, ils se présentent en père de famille ou en mère de famille.
C'est pour démontrer que, vraiment, ça, c'est un de leurs premiers rôles dans la vie.
Ouais, c'est ça. Donc, il a dit, en tant que père de famille, ce programme n'était pas acceptable et qu'il allait tout faire, et je dis bien tout faire, pour qu'il soit revu. Voilà. Alors, bon, le premier argument était qu'il allait s'engager personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne doit pas y avoir sa place. Bon, déjà, je tiens à dire à M. Portier qu'il se répète, parce que quand on dit une phrase ou met deux fois place, c'est trop. Mais parce que pour un gars qui est ministre de l'Éducation, apprend déjà à parler français. Mmh. Et donc, je continue, après cette petite sortie humoristique, parce que ce qu'il dit n'est pas humoristique.
Non.
Déjà, on va lui rappeler ça vaut quand même son pesant de crackers d'église, pardon, d'hostie, une telle sortie. parce que, d'abord, il faut le dire et le redire, la théorie du genre, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de théorie du genre. Ce qui existe, ce sont des études de genre, c'est-à-dire des études sur le poids des traditions, du patriarcat, des religions, des politiques publiques, sur les stéréotypes associés au genre. Voilà. Et c'est aussi par là que l'on a pu comprendre que le sexe biologique n'était qu'une donnée, parmi d'autres, du genre ressenti par les personnes. Voilà, ça c'est ce qui existe. C'est-à-dire des études.
Mais j'ai presque envie de dire, les seuls pour qui vraiment ça existe, c'est pour les réactionnaires, les sexistes, etc., qui sont persuadés
qu'il
y a des rôles prédéfinis pour les individus selon leur sexe de naissance.
Il faut se rappeler quand même qu'historiquement, celui qui va populariser la théorie du genre, c'est-à-dire cette notion-là, c'est Steve Bannon. C'est-à-dire, c'est à l'époque, il est juste avant la première élection de Donald Trump, et c'est son réseau Bright qui servir à diffuser cette idée qu'il y aurait une théorie du genre. Je vous rappelle que c'est les mêmes qui estiment qu'il y a une théorie de la Terre ronde. Vous voyez, c'est une façon de dire ça n'existe pas. Vous voyez, sauf que en fait, le genre existe et qu'on étudie le genre. Oui, effectivement, un peu comme on étudie à peu près tout, mais voilà. Donc, le problème qu'ils ont avec cette politique, pour eux, ce qu'il veut dire, le ministre, c'est qu'en fait, pour lui surtout, parce qu'il était tout seul à parler, et aussi pour ceux qui le soutiennent, parce qu'il a quand même reçu plein de soutien, notamment d'une nana du Figaro, qui est, vous savez, quelqu'un de bien, là, je me rappelle plus son nom, qu'on voit partout en ce moment.
Eugène Bastier.
Oui, tout à fait, voilà, je l'avais perdu. Je confonds toujours avec Aurore Berger, Eugène Bastier. Bon, c'est pas tellement différent, mais un peu quand même. Voilà. Donc, pour eux, Dieu nous a fait avec d'une certaine façon, et on doit se conformer au rôle millénaires qui nous sont attribués. Alors, s'il l'avait dit comme ça, il serait quand même assez vite été viré, parce qu'on aurait dit, on lui aurait rappelé quand même qu'il y a une loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors, ils ont appris à parler autrement. Vous voyez, c'est un peu le truc. Ils surfent donc sur la fake news, et profond délire réactionnaire quand même, de la théorie du genre, comme si on allait imposer quoi que ce soit aux enfants. Il faut voir le frère de Philippe Devilliers. Il y a un extrait qui circule où il est dans les grandes gueules.
Ah oui, ça me dit quelque chose.
Où il dit, vous vous rendez compte, on va demander aux enfants s'ils se pensent garçon ou fille. Personne va leur poser la question. Déjà, faut le rassurer. Et puis surtout, comment on peut avoir cette image et cette idée-là? Enfin, faut quand même être un peu siphonné. Bon, tout ça pour dire qu'ils sont quand même bien allumés. Il a en fait juste peur, en fait, qu'on outille, en réalité, les enfants pour réfléchir par eux-mêmes et comprendre leur rapport personnel au genre. En fait, la seule crainte qu'il a, c'est que les gens soient libres. Bon, oui, je peux le dire comme ça, si c'est que ça le problème. Et d'ailleurs, il appuie son argumentaire sur deux institutions qu'il sait parfaitement réactionnaires, parce qu'il n'est pas bête, il n'a pas pris n'importe lesquelles. Il rappelle que toutes les notions évoquées dans les matières doivent, je cite, « l'être en fonction, évidemment, du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié ». Alors, je vais faire un petit rappel. C'est oublié un peu vite, ou pas d'ailleurs, parce que je pense que lui, il le sait, que ces deux institutions sont décriées y compris par les milieux scientifiques qui estiment que c'est leur volonté à ces institutions, c'est d'imposer une science d'État, comme il existe une histoire d'État, un roman national. Et ils disent, le problème, c'est que cette espèce de roman national des sciences est très éloigné en réalité des découvertes récentes et internationales. Et il y a plein de scientifiques qui disent, mais ces institutions, elles sont passéistes, il faut qu'on s'en débarrasse, parce qu'il y a un vrai problème, ou qu'on les rénove, parce que voilà. D'ailleurs, c'est un peu comme l'Académie française pour la langue française, qui vient de sortir un dictionnaire où il y a des trucs hallucinants. Je vous invite, il y a plein d'articles dessus. C'est un peu du même tonneau. Mais en France, on aime quand même les grandes institutions. Vous savez, c'est le pays de l'institution chez nous, où l'on habille de pseudo-neutralité. Alors que, non, elles sont pas du tout neutres, concrètement. Justement, elles ont pour rôle de dire ce que l'État estime vrai. Donc, en fait, par définition, dire ce que l'État estime vrai n'est pas neutre.
Non,
ça se saurait. Donc, voilà. Alors, je vais quand même, elles sont quand même des creusets idéologiques, ces institutions, des lieux de pouvoir où se joue aussi un militantisme, dont on a si peur ce ministre, mais il y a aussi un militantisme de droite et d'extrême droite, pour imposer une vision unique de ce qui devrait être, en fait, issu non pas d'un organisme, mais bien de la réflexion et de l'acceptation scientifique au sens premier du terme et large. Le consensus scientifique, tout à fait. Doit-on rappeler ici que l'Académie de médecine a toujours été dans le sens du politique, y compris pendant le régime de Vichy. Puisqu'on le rappelle. Oui, on le rappelle.
Oui, c'est bien de le faire.
Alors, il est quand même amusant d'entendre le ministre dire ensuite que le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. A priori, il a sa place dans les institutions d'État, mais ça le dérange moins. Ah, c'est marrant, hein.
Mais je crois que tu continues sur le thème, non ?
Oui, un peu, ouais.
Ouais, bah vas-y, je vais finir.
Parce que oui, ce ministre, comme tous ses soutiens, que ce soit le syndicat de la famille, alors c'est le nouveau nom de la manif pour tous, syndicat de la famille, voilà, les différentes religions, la sphère Bolloré, au travers de ses chaînes, journaux et radios, ah oui, parce que voilà, ils s'en sont donnés à cœur joint.
Ah oui.
Les Républicains aussi, tout simplement, qui est un parti politique, le Rassemblement National, qui a soutenu la sortie du ministre, Reconquête aussi, le truc de la JT Zemmour, là. Et j'en passe, font quand même du militantisme et de l'idéologie, eux. Enfin, comme moi d'ailleurs. Enfin, je veux dire, comme tout le monde. Mmh. Parce que, en fait, moi je ne nie pas que j'ai un point de vue idéologique. Bah oui, mais eux aussi. Voilà. Donc, ils veulent nous faire avaler qu'ils seraient, tous ces grands messieurs et dames, voilà, représenteraient pour eux le vrai, l'immuable, la sagesse. Mais non, en fait, ils ont une idéologie claire, celle de la réaction et du retour en arrière. Il ne faut jamais cesser de le dire et de le marteler, même si nous sommes minoritaires en ce moment, c'est pas grave. Se taire, c'est cautionner, et mal nommer, c'est aussi aller dans leur sens. Mmh. Voilà.
Non mais j'avais lu ton truc et je savais que t'allais aller là-dessus, mais c'est vraiment ça qui est quand même toujours assez hallucinant, c'est cette conviction qu'ils ont que l'idéologie et que le militantisme n'est que de l'autre côté.
Mais
pense qu'ils n'y croient pas eux-mêmes quand même, ou alors c'est qu'ils sont quand même sacrément abrutis. Mais ils continuent de dire des choses comme ça et des gens continuent de les croire. Moi, c'est toujours ça quand même qui me fait halluciner. C'est pas tant que des gens disent de la merde, parce que des gens les écoutent.
Bah en fait, le problème c'est très franco-français quand même cette notion-là, parce que en réalité, dans d'autres pays, ça se produit pas, ça se passe pas comme ça. Si vous passez les frontières de la France, en fait, en général, quand un politique parle, tout le monde dit vous avez un point de vue politique. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une idéologie, ce qui est normal. En France, en fait, quand on est élu, a priori, on devient l'alpha et l'oméga, oui, et tout ce qu'on dit est vrai, et tous les autres font de l'idéologie. En fait, non, on est élu sur un programme, donc on a un programme idéologique et on applique une idéologie. Et c'est là, en fait, où vous désignez, parce que dans le cas du ministre, il est désigné. Donc c'est là qu'en fait, il y a un vrai problème, et c'est très franco-français. Et c'est aussi lié à la grande folie qu'on a en France des éditorialistes ou des toutouistes. Vous savez, ces gens qui sont experts en tout le temps. En fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'admettent pas qu'eux-mêmes ont une idéologie, sauf qu'en fait, ils sont aussi porteurs d'une idéologie.
Bah, oui.
Nous, à la causerie, on vous dit d'où on parle, vous savez qui on est, vous savez quelle est notre idéologie, vous avez sur notre blog, c'est écrit noir sur blanc. Et eux, ils vont vous dire non, nous, on est la neutralité. Mais ça n'existe pas, la neutralité. Jamais. Alors, j'en profite d'ailleurs ici pour rappeler que les associations familiales catholiques, elles dénoncent dans le futur programme que les parents soient invisibilisés. Alors, en fait, c'est pas ça. Ils reprochent le fait qu'ils puissent être montrés du doigt comme potentiels agresseurs.
Oh.
C'est un peu vrai. Que le genre soit omniprésent. Alors, dans les faits, ils estiment que la négation de la création est en marche. Ouais. Parce que vous voyez, c'est double langage, double discours.
Ça, par contre, c'est pas du militantisme ou d'idéologie.
Non, ça, c'est millénaire.
C'est les
piliers de la civilisation.
Oui, c'est ça. Ouais.
Que le consentement est promu comme nouvelle norme éthique. Faut dire que quand on couvre les abus de l'Église, il y a quand même de quoi flipper qu'on apprenne le consentement aux enfants. Et je traduis donc cela comme une volonté de laisser un droit au viol. Parce qu'on va être clair, si on dit que le consentement ne sert à rien, c'est quelque part, on n'a rien contre le viol. Enfin, ou alors, faut m'expliquer comment on abrique la nuance. Que les émotions sont instrumentalisées. Ça, c'est ce qu'ils disent dans la truc. Je suis allé fouiller, parce que il y a le communiqué de presse, puis après, il faut aller voir les débats. Mmh. Allez-y sur leur site, c'est intéressant. Parce qu'ils disent quand même cela parce qu'on apprend aux garçons qu'ils ont le droit de pleurer et aux filles qu'elles peuvent exprimer leur colère.
Et ça, donc, c'est grave.
C'est mal. Parce que Dieu, Il a pas fait des choses comme ça, mais il paraît.
Je rebondis là-dessus, mais enfin, et je crois que je l'ai déjà plein de fois, mais c'est vraiment quand même assez dingue qu'on entend toujours ces raclures quand il s'agit de faire, on va dire, un pas en avant sur ces notions de consentement, ouais, d'apprentissage, de bah ton corps, il est le tien, etc. Alors qu'on ne les entend jamais, mais jamais. Quand on parle de milliers de viols dans l'église.
Ah bah non.
C'est, et là, encore
alors,
une fois.
C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Parce qu'ils ont, ils sont intervenus à l'époque pour faire créer une commission, on en avait parlé ici,
oui.
Qui était en dehors de toute juridiction.
Oui.
Donc ils ont appuyé finalement. Là, on les a entendus, mais on les a entendus pourquoi ? Pour oui. minorer, pour cacher, pour empêcher en fait qu'on aille oui. au bout des choses. Donc là, ils font pareil. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent. Ils disent, mais attendez, mais si on apprend le consentement aux enfants.
C'est dramatique.
Ils vont savoir ce que c'est qu'un
ouais.
viol.
C'est fou. Voilà. Hein.
Parce que je vous rappelle juste quand même, je vais pas le faire ici, hein, j'avais prévu de parler entièrement de ce qu'il y avait dans ce programme. Je vous invite à aller voir. J'ai vu qu'il y a France Info et qui a fait un très très bon résumé de ce qu'il y avait dans ce programme. Vous savez, sur France Info, voilà. En fait, il n'y a rien de grave, hein. C'est juste un programme où on apprend aux enfants, par exemple, de 4 ans, à nommer correctement les parties de leur corps, mmh. vous voyez, pour pouvoir dire que s'ils ont quelque chose qui n'est pas normal, et leur rappeler qu'ils ont des sphères d'intimité. Mmh. C'est-à-dire que dire, on ne doit pas te toucher, tu vois, ouais, c'est très bête, hein, mais c'est des choses qu'on apprend aux enfants. Puis après, quand ça monte un peu, quand on arrive au CM1, CM2, on parle du consentement, du fait que, oui, dans la cour d'école, par exemple, tu as le droit d'aller au milieu de la cour, même si les garçons jouent au foot, parce qu'ils ont le droit, mmh. ils n'ont pas à prendre toute la cour d'école. Vous voyez, c'est des trucs comme ça.
Non, mais en soi, c'est pas bête. Hein.
Non,
ce que tu disais, c'est bête, mais non, en fait.
Non, je veux dire.
C'est basique.
Oui, c'est basique,
mais
pardon, je me suis exprimé.
À cet âge-là, en fait, oui. c'est déjà énorme de se dire, sache que ce qui est ton corps
sûr,
est
non,
le
non,
tien,
on est d'accord.
etc.
Oui, j'ai dit c'est bête, dans le sens, c'est basique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train, contrairement à ce que disent certains, à aller passer des films pornos aux enfants.
Non, mais c'est ça, parce que quand même, il y a eu des délires là sur la sphère facho, Bolloré, machin truc. Enfin, genre, on va parler de fellation aux enfants, quoi. Moi, c'est ça qui me rend ouf, quoi. C'est comment même ils arrivent à aller jusqu'à développer cette idée.
Mais comme Donald Trump peut faire de l'altervérité, comme Orban en fait aussi, c'est arriver avec une fausse, quelque chose que vous savez faux,
oui.
mais que vous annonnez tellement qu'au bout d'un moment ça devient une réalité qui, mais c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été l'extrême droite, s'est toujours servi de cette façon de faire, et c'est un peu dans leur ADN, et ils n'en coupent pas une nouvelle fois, quoi. Bref, vous l'aurez compris, hein, on a là une sortie d'une sphère clairement connue, hein, justement dont je parle. Celle des réactionnaires, de ce qu'on appelait aussi l'extrême droite à une époque, les intégristes, voilà. Bon, c'est pareil que ces mots, faut plus les dire. Alors, la droite de droite et les conservateurs religieux, moi, ça s'appelle minoré, hein, parce que voilà, très clair. Donc, ils veulent torpiller un programme qui a déjà 23 ans de retard, quand même. On va le rappeler ici, quand même. Parce que c'est en 2001 que la loi a été votée qui impose l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle du CP à la terminale, à raison de 3 séances par année. Par leurs différents lobbying, en cassant les moyens, parce qu'ils ont aussi des ministres qui ont cassé les moyens volontairement, hein, dans ces 24 ans, ils ont réussi ces dernières années à ce que moins de 15% des élèves bénéficient des 3 séances par an. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment les lycées ou les écoles où des profs se sont accrochés pour que ça puisse avoir lieu, et même d'ailleurs, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui donne ces chiffres, et il rappelle dans son rapport que là où ça a lieu, ça a même parfois lieu en dehors des heures de cours. C'est-à-dire que c'est des profs qui ont fait ça en plus de leur temps, parce qu'ils estimaient ça hyper important.
Mais justement, j'étais tombé sur un article il y a quelques semaines là-dessus, justement, où une prof disait, mais en fait, il faut qu'on se forme en fait ces questions-là. Et en fait, ils doivent le faire en dehors.
Et ça aussi, la formation, elle est en dehors de leur
temps. De leur temps de travail, en fait. Et tu dis, mais en fait, l'État est quand même un des pires employeurs, qui soit, quoi. C'est quand même complètement ouf.
Et j'en profite pour rappeler que les établissements religieux, à 96% catholiques en France, hein, quand même, ont tout simplement refusé d'appliquer sans aucune conséquence. Alors heureusement, il y a des associations de familles, dont la FCPE, qui ont porté plainte et qui ont obtenu gain de cause auprès du Conseil d'État. Et donc, à partir de l'année prochaine, elles sont d'accord pour appliquer le programme, mais à condition qu'il soit revu.
Vous voyez, Sénat.
La boucle est bouclée. Ce dont rêvent ces gens, hein, finalement, c'est des années passées où l'enfant n'était rien, où le consentement n'avait pas de conséquences quand il était brisé, un âge de minorité qui s'arrêtait à 12 ans, comme au Vatican, hein, par exemple. Bref, le paradis des ordures sur Terre, hein, parce que c'est ça leur rêve, un moment où en fait l'homme pouvait être l'homme. tel que Dieu l'a fait.
Voilà. Et finalement, ils ont beaucoup plus de liens avec les talibans qu'ils ne le pensent, en fait.
Mais c'est la même engeance. Hein.
Mais, oui.
Ne jouons pas les candides. On sait très bien que l'extrême droite est au pouvoir aujourd'hui, que ce soit directement ou indirectement, hein, par la pression qu'elle met sur le gouvernement. On peut d'ailleurs voir Michel Barnier reculer sur plein de choses et casser maintenant l'AME, l'aide médicale d'État, pour faire plaisir à Le Pen et Bardella et éviter d'être censuré et donc de perdre le pouvoir. Parce que quand on est au pouvoir, on ne fait pas le perdre. Mmh. Et on fait tout pour le garder. Même pactiser avec les fachos. Mmh. Bah ouais, parce que faut pas déconner, quoi. Alors, je vais vous parler un peu d'ailleurs. Parce que je me suis dit, bah en fait, il n'y a peut-être pas qu'en France qu'on a l'idée de faire ce genre de programme.
Non, c'est sûr.
Non, mais parce que je sais que la France, c'est l'alpha et l'oméga
oui,
du monde entier.
Oui, c'est ça, de la pensée.
De la
tout
pensée
quoi.
Et tout. Non, arrêtons les conneries. On est surtout un pays très réactionnaire.
Oui.
Et pourtant, en fait, il suffit de se pencher sur les pays qui appliquent aujourd'hui des programmes ambitieux d'accompagnement des enfants et des adolescents à la vie affective pour voir que cela fonctionne. Les pays du nord de l'Europe ont pu voir le nombre de cas de viols pédocriminels, de violences sexuelles, de viols et de violences physiques diminuer de façon plus que significative depuis plus de 25 ans que ces programmes sont déployés. Bah oui, parce que quand vous pouvez nommer, en fait, c'est plus facile en fait, d'empêcher.
Mm-hmm.
Tout bête, hein, en fait, comme truc. Cela a même eu un effet clair sur l'égalité salariale et pour casser les rôles stéréotypés par genre. En Espagne, où ce genre de programme est déployé maintenant depuis 10 ans, alors pas partout, mais dans la majorité de l'Espagne, puisque là aussi, c'est un État fédéral, donc il y a des endroits un petit peu où
ça va.
Les progrès sont là aussi significatifs, en particulier sur l'éducation au consentement, qui a fait diminuer les viols chez les 15-25 ans de plus de 30%. En 10 ans. Pas rien. Hein.
Non, c'est pas rien.
Moi, je me dis, on parle quand même de viol. Ouais. De la même façon, on constate que dans ces pays, notamment le nordique, l'accès aux études est bien plus égalitaire. On n'a pas d'un côté les filles en littéraire et de l'autre les hommes en sciences, comme c'est encore majoritairement le cas en France, malheureusement. On le voit, les effets de ces programmes ne sont pas que sexuels, comme le pensent les réactionnaires. Et d'ailleurs, il faut avoir regardé, hein, j'en parlais moi aussi, l'émission de Pascal
Pro. Ah bah oui.
Alors ça fait peur. Hein,
oui, ça fait peur.
Qui réduit ce programme à l'anulingus.
Voilà, c'est ça.
Pour comprendre à quel point ils sont à côté de la plaque quand même. Voilà.
Non, mais
je sais pas d'où il a sorti ce truc là.
Mais c'est, enfin, vraiment, des fois, je me dis, mais en fait, ils projettent leur propre fantasme. En fait, enfin, les gars, faut.
Je pense que Pascal
Proulx
devrait essayer l'anulingus, ça lui ferait du bien. Et après, il arrêterait de dire des conneries. Et à celles et ceux qui se demandent si c'est à l'école d'éduquer sur cela, parce que c'est un peu le truc qui revient beaucoup, mais est-ce que c'est à l'école de faire ça? Ben, moi, j'ai envie de répondre que vu ce que donne le monde actuel sans cette éducation, bah faut bien imaginer et tenter des choses pour sortir de l'impasse. Hein, parce qu'a priori, les parents font pas le taf là en ce moment. Hein, donc, mais surtout, imaginer pouvoir enfin baisser les violences et les viols, parce que c'est ça le but. Hein.
Oui.
Ce n'est que ça le but de ce programme. C'est empêcher que des enfants puissent être violés, c'est empêcher qu'il y ait des violences entre les enfants ou d'adultes vers des enfants, c'est empêcher les viols futurs dans leur vie. C'est ça, en fait, ce programme. Donc je ne sais pas en quoi ça vous... Oula. Voilà. Et c'est là que je me dis que ceux et celles hein, qui s'y opposent sont bien dans la volonté de maintenir la toute-puissance dans les mains des hommes cis, violents et violeurs. Parce que pour être clair, c'est... Voilà.
C'est ça.
Je vais quand même m'arrêter là hein, pour ce soir, mais je crains que la causerie soit obligée de revenir encore et toujours pour débunker et contrer les idées de merde qui circulent et qui sont portées par les pires réacs, fachos et autres intégristes de tout poil. Et que ce soit clair, hein, on aimerait parfois vous parler d'autre chose, mais que voulez-vous? Pour l'instant, il y a comme une urgence à ne rien laisser passer.
Ouais. Clairement, c'est la merde.
Ouais.
C'est
bon,
une sorte de retour du de bâton très réactionnaire.
Ouais, le backlash, comme
on dit. Backlash, oui, effectivement. Tout. Qui est étendu à travers le globe, en fait.
Ouais, hein,
fait. Je dirais, il suffit d'ouvrir un peu les médias, quels qu'ils soient. On se rend bien compte que la vague réactionnaire ne touche pas que la France, mais elle touche aussi
la France.
Hein, c'est pas l'Eldorado de la libre-pensée, tout ça. Non, du tout. C'est plutôt tenu bien en main par les réactionnaires de tout poil.
Ouais, puis je pense qu'il faut pas nier, parce que je crois qu'il y a une sorte de fantasme sur la France. On est quand même historiquement un pays fortement réactionnaire. On a toujours été un pays en retard sur beaucoup de choses. Hein. On est un des derniers pays à avoir donné le droit de vote aux femmes, par exemple, dans les pays dits à l'époque riches. On est l'un des derniers pays à avoir ouvert le droit à l'avortement dans les pays dits riches, hors dictature, parce que quand même, allez, voilà. Donc voilà, donc il y a en fait un moment donné où la France est profondément réactionnaire sur plein de sujets, et on continue en fait à avoir cette espèce d'image d'épinal d'une France qui a écrit liberté, égalité, fraternité sur tous les frontons des mairies, mais en réalité, on est un des pays qui appliquons le moins la devise de son pays, hein, liberté, égalité, fraternité. Tous les indicateurs internationaux voient que la France régresse, c'est-à-dire sur les libertés individuelles, sur le droit des femmes, sur même si on a l'impression qu'on progresse, en fait, en réalité, on régresse. Et encore une fois, je vais reprendre ce qu'a dit très justement Judith Godrèche, dont on cite beaucoup, mais elle est beaucoup dans les médias, et tant mieux, parce que ça fait du bien d'avoir une voix un peu différente, qui expliquait en fait que oui, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, en fait, beaucoup d'expressions, et elle trouve ça très bien, et je pense qu'elle a raison. Par contre, elle dit, il y a très peu d'action. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses dites, beaucoup de choses qui sont faites, mais en réalité, en termes d'action réelle, de moyens, rien n'est fait. Les associations féministes rappelaient qu'il faut 1 milliard pour la prévention et 1,6 milliard pour l'aide directe pour, éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, le budget, il est de 300 millions. Donc, et encore 300 millions parce que vous ajoutez à ça les budgets des métropoles, des départements, donc c'est même pas le budget d'État qui est de 300 millions. Donc en fait, on est quand même face à beaucoup d'annonces, mais très peu d'effets et d'actes. Et là, quand on voit que 24 ans après la mise en place d'une loi qui dit qu'il faut éduquer les enfants sur leurs droits, parce que c'est ça dont on parle, leur droit à être, leur droit à être libre, et les outiller pour qu'ils puissent être libres et qu'ils puissent être ce qu'ils veulent être, et qu'on arrête d'avoir du harcèlement, de la violence et des viols autour de tout, pour les enfants et autour des enfants, et ben en fait on a des gens qui viennent encore une fois bloquer le processus, et c'est extrêmement puissant en France parce que ça fait 24 ans que c'est bloqué, et pourtant on va le dire, la gauche a été au pouvoir pendant ces 24 ans. Et donc c'est là le problème, c'est-à-dire qu'en fait
elle a reculé avec l'ABCD égalité.
Ouais, tout à fait. J'allais en parler parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que le poids des réactionnaires en France est énorme et il l'est depuis toujours. Et aujourd'hui, ils ont en plus des relais politiques parce que la France bascule à droite et à l'extrême droite. Donc en fait, on a aujourd'hui, c'est leur moment de gloire. Sauf qu'en réalité, ils ont toujours été là pour empêcher les choses d'avancer. On le voit sur les lois sur la fin de vie, c'est exactement la même chose. En fait, tous les sujets sociétaux où finalement, quand des sondages sont faits, la majorité des Français sont pour et en fait, en gros, s'en foutent, en réalité, c'est une minorité agissante d'extrême droite, de réactionnaires, de catholiques religieux, intégristes, de musulmans intégristes, de juifs intégristes qui s'allient pour bloquer ce que la majorité souhaite. En fait, c'est ça la France, concrètement. Et on a une espèce d'image d'Épinal d'un pays d'une grande démocratie et tout. En réalité, c'est faux. Parce qu'en réalité, les faits politiques en France ne sont pas en lien avec ce que la majorité pense. Jamais. Et en fait, on a une minorité agissante, réactionnaire, qui depuis des années bloque toute avancée sociétale. Et il faut faire à un moment donné qu'on s'en rende compte. Et c'est un énième exemple.
Oui, et puis aussi ce truc de pourquoi l'école devrait faire ça. Ben, en fait,
Et pourquoi pas, en fait.
Et déjà,
pourquoi pas, après tout.
Est-ce qu'on doit compter que sur les familles? Alors après, l'école ou d'autres choses, hein, moi, les centres sociaux, oui, les MJC, etc.
Mais il faut
tant mieux
de
l'éducation populaire partout, en fait.
Que ce soit partout.
Mais si on en croit justement certains chiffres, en fait, on comprend que dans certaines familles, on n'en parlera surtout pas.
Bah, évidemment.
Parce que sinon, papa, il pourra plus violer ses enfants, en fait. Et on va faire comment? Merde. Donc, en fait, c'est tout ce truc-là et c'est toute cette chose-là qu'ils ne veulent pas voir parce que eux, la famille, c'est le centre névralgique de tout. Avec Dieu, forcément, ils peuvent pas vouloir détruire ce truc qui ne serait que amour et je sais pas quoi. Parce qu'un papa et une maman, hein, c'est que de l'amour, ce qui paraît chez eux.
Je vais être très provocateur dans ce que je vais dire après, mais j'assume ma provocation. Ouais. Toutes les religions du monde, toutes sans exception, vénèrent des livres ou des écrits dans lesquels sont tolérés les viols, les enlèvements, les meurtres. Les violences sur les enfants, les mariages incestueux, l'esclavage, toutes les religions du monde ont ça dans leur livre de base. Comment voulez-vous qu'on continue à imaginer qu'ils n'ont pas d'influence sur la vision politique, c'est-à-dire la gestion de la cité derrière? C'est pas possible. Donc en fait, il y a un moment donné, il faut se rendre compte de ça. Et c'est là qu'en fait, il faut que les personnes qui soient... ont mis de côté un petit peu les aspects les plus tordus de leur religion, parce qu'il y en a plein qui croient, mais qui mettent un peu...
Évacuent, tant mieux,
qui disent, bon, ça c'était écrit il y a 700 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, on va peut-être pas le prendre au pied de la lettre, ça c'est très bien. Et aussi les personnes athées, les non-croyants, tout ça, il est temps de prendre la parole et de contrer cette minorité agissante, parce que sinon, elle va continuer à pourrir la vie de plein de gens et honnêtement, elle nous pourrit sincèrement la vie. Donc voilà, il y a un moment donné, c'était un exemple, mais ça m'a permis de faire une sortie peut-être un peu plus large. Mais c'est, voilà. Et on a un ministre aujourd'hui, je le redis, alors je vais redire son nom, Alexandre Portier, qui est un ministre donc proche de la Manif pour tous et qui est en charge de l'éducation de vos enfants. J'en ai pas, moi, personnellement.
Oui.
Ça devrait quand même vous interpeller.
Effectivement. Et malheureusement, contre la peste religieuse, pas de vaccin. Il n'y a que le combat.
C'est dommage. Hein.
Ouais, mais il n'y a que le combat, donc...
Ouais. Hein, bon, on va continuer.
On y va. Ouais. On passe à la ZIC.
Ah, ouais. Allons-y.
Sentir l'odeur du pain, au sésame ou au cumin, fallait faire la queue longtemps dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison? Et les voisins en sont les gardiens. Ici je lis mon journal où je veux, et c'est banal. Ici je n'ai plus peur au petit matin. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. Cathédrale et devant les bras zéros dans l'avenue. L'aveugle au violon très fort dans les rues que des vélos. J'entendrai toujours ces bruits qui continuent. Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient. Tous ces visages sans un nom dessus. Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée, car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue. Il n'y avait rien à regretter là-bas, alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi.
Causerie au 102.2 sur Radio Canu.org. Tu viens d'entendre la voix, comment dire, magnifique, inimitable de Swad Massy, qui chantait un texte de Marie Bolbel et qui est Pays Natal. Voilà, et c'est une chanson magnifique. Et comme on a eu la chance de pouvoir la voir avec l'Orchestre National de Lyon vendredi, on peut vous dire qu'en live, c'est encore plus beau. Voilà. Allez voir Swad Massy en live.
En effet.
Voilà. Et Jean-Yves, toi, tu veux nous parler d'un livre et tu nous fais un peu voyager, du coup.
Ouais, on va dire ça, effectivement. Ce soir, je vous cause du dernier roman de Djaili Amadou Amal, nommé Le Harem du Roi, paru aux éditions Emmanuel Colas en août 2024. Alors, j'avais déjà parlé du roman Les Impatientes de Djaili Amadou Amal. C'était dans la 394e causerie, si ça vous intéresse, en juin 2021. Alors comme d'hab, hein, quelques mots sur l'autrice avant de parler plus longuement du livre. Donc Djaili Amadou Amal, elle est née en 77, hein, tout au nord du Cameroun. Elle est la fille d'un père camerounais et d'une mère égyptienne. Elle est peul et musulmane. Elle a connu mariage forcé, violence conjugale, et un de ses ex-maris avait aussi kidnappé ses enfants. Hein. On peut dire que sa vie l'a amenée à avoir une plume qu'on peut dire plutôt militante, hein, et c'est pas un vilain mot, antisexiste, féministe, critique et du moins interrogative, hein, au sujet des traditions et de la religion. Et elle sera assez rapidement reconnue comme une grande plume, hein, et d'ailleurs son roman Les Impatientes est maintenant au programme dans les écoles camerounaises. Alors le roi du harem. Alors on entre dans la vie de Boussoura, pardon, au sein du palais royal, dans une région reculée du Cameroun, Palais Royal, hein, qui a été construit il y a plus de 200 ans, hein, qui est son lieu de vie maintenant depuis des années, depuis que son mari, Saini, a été désigné et nommé Lamido. Alors le Lamido, c'est un chef politique et religieux, commandeur des croyants et garant des traditions, hein, de toute la localité. Et il a été nommé après la mort d'un de ses oncles qui était lui-même Lamido.
Hein, souvent ça se transmet.
Oui, c'est ça. Déjà, il y a tout ce truc-là. Quoi, hein. Alors, chose importante quand même à savoir, avant cette nomination, en fait, Boussoura et Saini vivaient à Yaoundé, capitale du Cameroun. Elle était prof de littérature et lui était médecin. Quoi. Alors certains diront qu'ils avaient une vie à l'occidentale. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à quelque chose.
Non, mais disons qu'ils étaient dans une capitale, donc ils vivaient comme un peu quand on vit à Paris en France, différemment du reste du pays.
C'est plutôt ça, je pense, oui, effectivement. Alors, il et elle, hein, sont parents de 4 enfants, et ils vivaient une relation amoureuse exclusive depuis 25 ans, bien que la polygamie soit légale au Cameroun, et parce que Saini, autant que Boussoura, était opposé à la polygamie, et ce qui valait même des fois le surnom à Saini de féministe. Genre un homme féministe, c'était un peu waouh. Alors, mais depuis que Saini est Lamido, tout, absolument tout a changé. Et c'est ce qu'on va découvrir, hein, au fil des 300 pages du roman qui offre en fait une plongée au cœur et dans l'intimité du palais et de ses occupants et occupantes. Alors si Saini, hein, a pu croire lui-même que rien ne changera, qu'il saura rester, qu'il saura rester celui qu'il avait été jusque-là, hein, la pratique du pouvoir démontrera qu'il n'en est rien.
Le pouvoir corrompt, hein, toujours.
C'est, hein. Oui, c'est vraiment... C'est
un vieil anti-manard, hein, mais c'est, pourquoi
oui,
on le dit.
C'est
hein.
ça, c'est exactement ça. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais oui, c'est exactement ça. Alors Boussoura, hein, elle était opposée à ce que Saini devienne Lamido. Mais pour de multiples raisons, mais la pression sociale, familiale et amicale, hein, auront raison de sa position. Hein, parce que est-ce que ce serait pas un peu égoïste quand même de sa part d'interdire à son mari de devenir Lamido? Est-ce que ce serait pas un petit peu égoïste d'imposer à sa femme un tel changement de vie? C'est marrant, en fait, l'inverse se pose rarement comme question.
Si j'ai bien suivi, lui, il était médecin.
Oui.
Donc il n'a pas non plus une position basse dans la société.
Ben non.
Parce que les médecins sont quand même plutôt des gens respectés, qui ont une bonne vie, une bonne position dans la société.
Alors je ne vais pas trop spoiler, mais c'est sur ce quoi ils vont s'appuyer pour vraiment le pousser à se présenter. Parce qu'il est celui qui en sait le plus dans la famille, etc. Ah, donc oui. Il faut
N'en raconte pas trop.
Non, c'est ça. Je me réfrène. Alors Saini, hein, celui qui ne soutenait pas l'esclavage... se trouvent des raisons en fait de ne pas remettre en question la présence de femmes esclaves au palais. Hein ? Pire, il arrive même à justifier cela. Vous savez, les traditions, la hiérarchie sociale. Et puis bon, il peut aussi compter sur son entourage, hein, pour l'aider à accepter tout cela. Parce que c'est comme ça. On ne remet pas en question toutes ces choses-là. Celui qui dénonçait la polygamie, hein, comme le faisait Boussoura, comme je vous le disais, comme une pratique, hein, qui niait le droit des femmes de dire non, se fait au fil du temps... Au fait, d'avoir des concubines au palais. Hein. Là encore, son entourage l'aidera à accepter, à ne rien interroger et ne surtout rien changer. Vous savez, les traditions, la hiérarchie sociale, tout ça, c'est sacré quand même. Hein. Faudrait pas trop faire changer les choses. Celui qu'on disait féministe, il en a pas grand-chose à faire, en fait, des tourments des femmes du palais, des esclaves aux concubines, hein, et pas plus de ceux de Boussoura. Nommé d'ailleurs maintenant Matti Berry, pour vous expliquer, c'est l'épouse Peul. Et ce qu'elle dit elle-même, en fait, aujourd'hui on ne m'appelle plus que comme ça, ce qui me rappelle que je ne suis plus qu'un titre maintenant. Et alors qu'encore une fois, quand on se rappelle de la vie qu'elle avait à Yaoundé, elle était une femme indépendante et voilà quoi. Maintenant elle n'est plus que la femme d'eux. Et encore l'épouse Peul d'eux, enfin bon bref. Et on peut se poser la question, effectivement, est-ce que les traditions, la religion, le pouvoir auront-ils raison de l'amour qui unissait Boussoura et Seyni? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en sera aussi de leur relation avec leurs quatre enfants? Qu'est-ce que ces quatre enfants vont penser et enfin voilà, je vais pas trop en dire. L'autrice, en fait, dans cet ouvrage, elle laisse la place à toutes les femmes du palais, hein, leur vie, leurs origines, leurs histoires personnelles, mais aussi les tensions, hein, qu'il y a entre toutes, les aspirations de certaines, les peurs de beaucoup, les manques et aussi évidemment les interdits et rôles qui les asservissent. Et ça concerne aussi Boussoura, hein, tout ça est très 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 cadré. Et il ne faut pas sortir du cadre. Elle expose en fait aux yeux du monde cette société, ces personnes, souvent, pour ne pas dire toujours, invisibilisées. Parce que, en fait, si on est effectivement, c'est un roman, les situations, les faits, les rôles sociaux, eux, sont une réalité.
Oui, c'est ce qu'on appelle un roman du réel. C'est-à-dire, c'est un roman qui s'appuie sur la façon dont, dans le réel, ça se passe réellement.
C'est sa manière de faire.
Oui, hein, tout à fait.
Les Impatientes, c'était pareil. Hein. C'est un roman, mais on sait très bien que.
C'est un très beau procédé littéraire.
Ah, mais oui, très. Oui,
Gaël Faye le fait aussi. Oui. Enfin, plein de d'auteurs le font et c'est plutôt efficace.
En fait. C'est ça. Et en fait, en filigrane, elle interroge le mutisme en fait, de la société. Hein, sur l'acceptation d'un esclavage qui ne semble pas déranger grand monde, voire qu'on accepte parce que, encore une fois, il est lié à la religion, aux traditions, et que tout ça, on ne remet pas en question parce qu'il y a toujours de bonnes manières de justifier l'exploitation d'autres et de leur nier des droits et une liberté, en fait. Et elle interroge aussi l'effet des traditions sur les individus.
Bien sûr.
Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Et je l'ai réécouté aussi, l'autrice, en interview. Et c'est ce qu'elle disait, en fait. Seyni, c'est pas du tout un cliché de tocard qu'on pourrait détester au premier abord, en fait. Hein. Vraiment, il était ce qu'il était. C'était un mec ouvert, etc.
Mais on lui met du pouvoir.
C'est ça. Et en fait, d'un coup, c'est cette capacité à d'un coup se nier même soi-même pour répondre aux attentes qu'un rôle, qu'une religion, que des traditions. Nous, dans lesquels tout ça nous enferme, en fait, quoi. Et elle interroge aussi, hein, en fait, l'abnégation des femmes, en fait. Parce que ça, c'est quand même complètement ouf, de Boussoura, mais pas que, pour diverses raisons, hein, elle prendra longtemps sur elle, mettra longtemps sous cloche ses propres envies, ses propres limites. Même si elle va les exprimer, il y aura toujours un bon moyen de se dire « Oui, mais quand même, tu vas pas empêcher ton mari de... » pourtant son mari l'empêche d'eux. Donc c'est vraiment, enfin, j'adore ce qu'elle écrit. Enfin, elle écrit vraiment, c'est toujours et encore une fois, et c'est ce qu'elle dit, et elle s'appuie sur des réalités.
Oui,
vraiment,
tout à fait.
Et c'est ce qu'elle dit, je répète encore ce qu'elle disait dans cette interview que j'avais entendue. Ce qu'elle dit, en fait, aujourd'hui, oui, on va parler de la traite négrière, on va parler de l'esclavage, mais par contre on ne va pas. Il y a tout un pan d'une réalité contemporaine, encore aujourd'hui, de l'esclavage, qu'on ne va absolument pas regarder, voire on va plutôt la planquer pour laisser ça tranquille et surtout pas trop secouer les choses parce que, oh là là, et les traditions, le sacré, machin truc. Et c'est vraiment, c'est hyper intéressant, quoi. Donc je vous rappelle, hein, c'est encore une fois un superbe roman, hein, qui donne à voir, à réfléchir, et que je vous invite évidemment vivement à lire et à faire connaître autour de vous. Donc c'est Le Harem du Roi de Djaili Amadou Amal, et c'est toujours aux éditions Emmanuel Colas.
Ça a l'air très bien. Mais je voulais juste, moi, rebondir sur un truc, c'est que j'entends déjà les gens qui ont une vision, une lecture très ethnocentrée, dire oh là là, c'est africain quand même, hein, parce que vous voyez, non mais je le dis parce que on l'entend ça. Alors, je voudrais juste rappeler quand même quelle différence vous faites entre ce que tu décrivais et la première dame de France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas étranger à nos sociétés.
Non.
C'est-à-dire que, aujourd'hui, Brigitte Macron, c'est la première dame de France. C'est quoi? On sait pas trop, mais c'est la femme du chef.
Oui.
Alors, du coup, elle a un statut un peu bizarre. Puis elle a plus le droit d'enseigner, elle peut plus faire ce qu'elle veut. Et donc, elle est première dame de France, vous voyez. À l'époque où il y avait Sarkozy, Carla Bruni ne pouvait plus faire d'album parce qu'elle était première dame de France. Pourtant, elle était chanteuse, hein, c'était son métier. Mais voilà. À l'époque de Hollande, Julie Gayet, qui était sa compagne, ne tournait plus parce qu'elle était la première dame de France. Donc, c'est pas étranger, en fait, à nos sociétés.
Non.
Croire que c'est uniquement là-bas, comme on a l'impression. C'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, les notions de transformation par le pouvoir, de la compagne ou le compagnon qui se retrouve à être finalement intégré avec la transformation, c'est aussi propre à nos sociétés aussi. Faut pas rêver. Et donc, du coup, malheureusement, parce que ça veut dire justement qu'il y a peut-être un universel des choses à renverser dans les traditions et compagnie. Mais du coup, c'est intéressant de voir que il y a souvent ce réflexe qui se met en place. Et je dis ça parce que je l'ai lu. Okay. Voilà, par rapport ou quelqu'un dans une critique, bon, le journal de droite, hein, Le Figaro, qui dit ouais mais bon, qui dit c'est là-bas, ben, sauf qu'en fait non, parce que finalement ce qu'elle décrit, bon là c'est un pouvoir religieux.
Oui, oui, et puis il y a la polygamie autour, il y a l'esclavage.
Alors c'est sûr qu'il y a un corpus, oui, oui. On va dire du pays qui
mais c'est
qui
encore une fois, c'est même pas du pays, attention.
Oui, enfin c'est vraiment tradition,
c'est,
du oui, tradition
c'est,
locale
c'est par localité, voilà. Etc. Là c'est vraiment dans l'extrême nord
régional, on va dire.
Oui, c'est ça, régional.
Et ça personne ne le nie, c'est voilà, mais c'est pas tellement, enfin, ramené en fait à nos corpus régionaux ou de pays ou ce que vous voulez, vous avez les mêmes dérives partout en réalité. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, ben, le pouvoir partout a une tendance à transformer les humains, et pas rarement dans le bon sens.
C'est ça. C'est vrai.
Et puis sur le concubinage, j'ai souri parce que j'ai repensé à Jacques Chirac. Qui était tout le monde disait c'est normal, il a des conquêtes et puis il a sa femme. Mmh. Vous voyez, et puis tout le monde trouvait ça normal et personne parlait de polygamie ou d'avoir des concubines, pourtant c'est exactement la même chose, mais en fait là on va en rire et puis là-bas on va le dénoncer. Mmh. Vous voyez le petite nuance que je fais, c'est-à-dire que moi après le couple libre j'ai rien contre, hein. Mais quand c'est consenti et quand c'est les deux sont d'accord,
c'est hyper,
mais là on est pas du tout dans la liberté, on est dans l'imposer un des deux et à
c'est...
une des deux souvent à la femme du couple.
Bah, oui.
Et donc du coup on n'est pas du tout dans la même logique. Et pourtant, bah, on le sait, en France, ça s'est fait avec un président, c'est documenté, tout le monde le sait, ça s'est fait avec un autre, hein, parce que François Hollande, il prenait même son scooter. Donc voilà, et en France, on en rit. Mais on peut en rire, c'est pas un problème. Sauf que, faudrait quand même se rendre compte que c'est un peu pareil. Voilà, c'est
oui,
que mais bah, on institutionnalise le fait que ça arrive.
Oui, oui,
vous voyez
oui.
Ce que
oui.
Je veux dire, on dit pas, oh, pff, voilà, il y a pas de problème. On se met rarement à la place de l'épouse.
Oui. Et après, justement,
même si c'est pas du même niveau. Hein.
Non, c'est
mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous nos dérives dans tout.
Ah mais bien évidemment. Je veux dire, le patriarcat, c'est juste qu'il prend différentes formes. Le pouvoir.
Il y a plus ou moins de
partout.
Pouvoir. En fait.
Bien sûr, en fait, ça.
Mais
c'est juste qu'il prend des formes différentes et etc. Mais en soi, du pouvoir reste du pouvoir. C'est juste qu'il sera appuyé sur des choses différentes. Et c'est justement ceci ce qu'elle disait en interview, c'est ce qu'elle veut amener par ce roman-là et par ce qu'elle fait, c'est en fait à interroger les choses en fait.
Bien sûr.
Et ce qu'elle dit, elle se pose pas du tout en gardienne d'une morale ou de je ne sais quoi.
Non, mais c'est poser la question.
Et c'était intéressant ce qu'elle disait à l'heure du polyamour aujourd'hui. Elle dit on est quand même encore dans une répétition dans certains endroits ou même dans certains couples, dans certaines relations, de schémas ultra dégueulasse en
ultra
fait,
conservateur,
mais oui ultra conservateur, qui ne cherche pas du tout le bien-être des personnes qui constituent cette relation, etc. Donc c'est vraiment je trouve que c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est-à-dire que sous une forme d'écriture, un roman, etc., ça vient vraiment interroger des choses qui sont contemporaines et qui n'appartiennent pas que au Cameroun, encore une fois, hein, ou à cette région nord du Cameroun. C'est le patriarcat et le pouvoir sont partout. Et bah, tiens, c'est intéressant justement de voir que dans différents endroits du monde, il va prendre des formes différentes, mais que partout, il a les mêmes méfaits et il nie les mêmes libertés individuelles, en fait.
Tu traduis très bien ce que j'ai essayé de dire maladroitement.
Mais c'est pas grave, demande-moi la prochaine fois.
Je ferai ça.
On passe à la ZIC, si ça vous va, enfin si ça te va, et on se retrouve direct après.
Petit, il t'avait dit 10 000 récits, des faits pas ça, des faits ceci, des centaines de facéties. Il t'avait fait 10 000 méfaits, oui en effet, c'était mal fait. À l'enfant que t'étais, il l'avait usé et défait. L'adulte qu'il était, que personne n'arrêtait, souvent se permettait sur toi des actes qu'il commettait. À cet enfant innocent, oui celui que t'étais, il avait volé ton corps, le laissant là, nu qui gigotait. Pas joli joli, ton âme toute ramollie, fallait rester poli quand lui volait ton anatomie. Il t'a fallu plus de 30 ans, se serpentant, ses souvenirs non consentants, dont ton mental s'en défendant. Mort à l'intérieur, mort bien avant l'heure, vivant dans la frayeur, luttant pour voir venir des jours meilleurs. Tout sanglotant, étouffant, sous ses attouchements, que t'étais qu'un petit garçon, ben non, y'a pas eu d'accouchement. À tour de bras devant son Dieu, lui se repentant, toi les bras pendants pendant que lui prenait son temps, lui se contentant de ton corps sans répondant, toi le racontant un entourage de malentendants. À tour de bras devant son Dieu, lui se repentant, toi les bras pendants pendant que lui prenait son temps, lui se contentant de ton corps sans répondant, toi le racontant un entourage de gens consentants. Comme c'est l'exutoire, je raconte ton histoire. Ça peut paraître dérisoire d'aller gratter, ouais, tous ces fonds de tiroir. Mais aujourd'hui encore, on écoute les beaux parleurs, on leur donne du réconfort pendant que les victimes meurent. Prostré, le regard vide et empli d'amnésie, pour te sauver, tes souvenirs sont sous anesthésie. Enfermé pour toujours dans les couloirs de ta tête, par celui-même qui en mourant n'aura pas réglé sa dette. Et toi, tu as dû arpenter la vie, apprivoiser tes aphasies, soigner seul tes hémorragies. Personne ne prenait soin de ton squelette, sauf le silence qui montait des cloisons plein ta tête. À moitié schizophrène, lucide, sous hallucinogène, les yeux humides, sans gaz lacrymogène. Divagant, perdu dans le temps, paumé dans le monde extérieur, tu parles à ton gosse intérieur. Tu es toi, et moi je suis moi, tu es cet enfant perdu que j'ai enfoui au fond de moi. Je me rappelle plus d'où je viens, non je me rappelle plus très bien, quand grand-papa prenait ma main pour assouvir ses désirs malsains. À tour de bras devant son Dieu, lui se repentant, moi les bras pendants pendant que lui prenait son temps, lui se contentant de mon corps sans répondant, moi le racontant à l'entourage de malentendants. À tour de bras devant son Dieu, lui se repentant, moi les bras pendants pendant que lui prenait son temps, lui se contentant de mon corps sans répondant, moi le racontant à un entourage de gens consentants. Pas de justice pour écouter les enfants écorchés, personne pour représenter les bleus résorbés. C'est une gamine sur 5 qui finit disloquée, et un garçon sur 13 qui finit défroqué. Alors petit, qui vit toi-même ce cauchemar, au moment même où je parle, tu subis l'insurmontable. J'aimerais pouvoir t'apporter de l'espoir, rallumer la lumière et faire fuir toutes les bêtes noires, et faire disparaître tous ces monstres qui remplissent ta tête de milliers de sales histoires. Réinventer un monde rien que pour toi, pouvoir te dire que moi j'ai trouvé l'exutoire. Que non, 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 la mort n'est pas un choix. Et non, 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 le viol n'est pas un jeu. Et oui petit, parle-en autour de toi, dénonçons tous ces rats et condamnons ces scélérats. À tour de bras devant leur Dieu, eux se rencontreront, nous les bras pendants pendant que eux prendront leur temps. Eux se contenteront de nos corps sans répondant, nous leur raconterons un entourage de malentendants. À tour de bras devant leur Dieu, eux se rencontreront, nous les bras pendants pendant que eux prendront leur temps. Eux se contenteront de nos corps sans répondant, nous leur raconterons un entourage de gens consentants. Et nous leur raconterons, nous leur raconterons, raconterons pour faire taire les candidats. Et nous le raconterons, et nous le raconterons. Et nous le raconterons pour qu'enfin la honte change de camp.
De Radio Canu, et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. On vient de s'écouter, j'ai envie de dire le superbe titre, mais parce que je le trouve vraiment très bon et très beau. Donc de Juan Lobo, c'est un artiste suisse avec le titre Les enfants écorchés. Et je vous invite aussi à aller voir son clip fait maison, il est très beau. Donc voilà. Si ça peut parler à des enfants, à des adultes, eh ben, ça
sera... J'espère que ça parle à tout le monde. Moi.
Oui, aussi, mais il s'adresse quand même aussi à oui, mais justement ces enfants.
Tout le monde entend le message.
Oui, c'est ça. Eh bien, pardon, tu as des brèves.
Ouais, j'ai d'abord deux infos et deux brèves. Donc le premier, c'est que, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, c'est les 80 ans du massacre de Tiaroy. Donc c'était, on va le rappeler, hein, ce sont des tirailleurs sénégalais qui avaient combattu pour l'armée française et qui réclamaient leurs soldes et qui ont été massacrés par l'armée française le 1er décembre 1944. Et quand on dit massacrés, ils ont sorti des mitrailleuses, ils ont tiré dessus, hein, tout simplement, sur des gens qui manifestaient. Donc c'est les 80 80 ans et il est temps que l'histoire s'écrive. La France reconnaît 35 morts alors qu'on sait qu'ils étaient plus de 400. Timidement, Emmanuel Macron a écrit une lettre pour dire oui, c'était un massacre, sans donner le chiffre évidemment, parce qu'il ne voudrait pas que l'armée française soit obligée de quitter le Sénégal, parce que c'est ça qui est derrière. Hein.
Le président sénégalais commence à demander.
Bah, il commence un peu à en avoir marre d'avoir une base militaire française, ce qu'on peut s'entendre, hein, parce que comme il l'a dit, et c'est pas idiot, est-ce que vous accepteriez d'avoir une base sénégalaise en France ? Je suis pas sûr. Juste pour dire que, même si je ne suis pas très fan du président sénégalais, mais cette sortie-là était quand même plutôt justifiée. Donc voilà, donc c'était pour qu'on n'oublie pas. La deuxième chose, c'est qu'on est le 1er décembre, et que le 1er décembre, eh ben, comme on le dit dans certains milieux, c'est la Saint-Sida. Ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire c'est le jour où nous nous rappelons des mortes et des morts du sida, passé et présent, parce que le sida tue toujours dans le monde aujourd'hui, et il faudrait arrêter de faire comme si ça n'existait plus, parce que sous nos latitudes et parce que nous sommes dans des pays riches, nous avons la chance, et je dis bien la chance, d'avoir accès à des traitements qui permettent d'éviter en fait la contamination et aussi d'éviter de mourir des effets d'un VIH qui se déclencherait. On peut aujourd'hui être porteur sans transmettre le virus parce que on a des traitements adéquats, et c'est très bien. On n'a pas fini avec cette maladie, qu'il faut qu'on trouve un vaccin, ça devient urgent, parce que c'est le seul moyen efficace, qui sera réellement efficace, de contenir la maladie au niveau mondial. On va rappeler aussi qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites et qu'il n'y a que quelques associations, notamment françaises, qui aujourd'hui donnent de l'argent pour la recherche. Donc j'avais envie de vous inviter, je pense que c'est collectif à la cause, on avait envie de vous inviter à soutenir ces associations qui viennent en aide aux personnes, qui font de la prévention, qui aident en fait à aller dans les écoles, par exemple, pour parler à vos enfants et leur expliquer il y a la PrEP, il y a aussi le préservatif, que la PrEP ça protège mais pas forcément de tout, que le préservatif ça protège mais pas forcément de tout aussi, et qu'il faut aussi quand même se faire tester, dépister, enfin voilà, tout ce qui et attention, je ne suis pas en train de dire que le préservatif ne préserve pas du sida, c'est pas ce que je dis, c'est qu'il y a d'autres maladies que le sida, que le VIH pardon, donc c'est aujourd'hui important pour nous chaque année d'en parler dans la causerie, et donc on le fait encore aujourd'hui, donc voilà.
Très bien.
Et deux brèves qui sont assez importantes. Le mardi 3 décembre à Lyon, il y a une autodéfense contre les arrestations et expulsions des sans-papiers. Donc c'est une soirée qui est sous l'égide de Lyon Info Migration. Face au durcissement des politiques d'accès à un titre de séjour et la mise en place de lois toujours plus répressives, les personnes n'ayant pas les bons papiers sont, selon l'État français, sont de plus en plus exposées au danger de se faire arrêter. Il est donc primordial d'être préparé pour bien réagir en cas d'arrestation ou pour essayer d'intervenir parfois. Donc c'est un atelier d'autodéfense juridique avec les collectifs anti-CRA et les collectifs des sans-papiers 69 dans le cadre des soirées Lyon Info Migration, et c'est à l'amicale du futur 31 rue Sébastien Griff, donc le 3 décembre à partir de 18h30. Et autre info, on en avait parlé, donc je vais annoncer qu'elle commence. Donc c'est les mercredis après-midi du local autogéré féministe, parce qu'on avait parlé de l'appel à la canonne, donc ça y est, le local il est tout beau, tout frais, et il ouvre à partir de mercredi 4 décembre, 14h pour des après-midi d'échange. Alors je vous laisserai aller voir le programme parce que c'est un peu long, je ne vais pas vous le lire. Par contre, juste préciser que c'est en mixité mais sans mexis. Voilà, donc vous ne débarquez pas en mode lourdeau en disant pourquoi je n'ai pas le droit de rentrer. Parce que tu es un mexis et puis c'est pas grave, hein. Tu te tueras ailleurs, tu as d'autres lieux. Mais là, c'est pas ton lieu, c'est tout. Donc c'est pas mon lieu, tu vois, par exemple, et c'est pas grave. Je n'en fais pas une maladie, tu devrais y arriver aussi. Hein, bon, voilà, donc tout ça pour dire que on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est cool de voir un projet qui finalement avance et avance bien.
Ouais,
et on leur souhaite de réussir. Hein, parce que, voilà.
Et moi, je c'était pas prévu, mais vous savez qu'il y a quelques temps, peut-être vous ne savez pas, vous vous en foutez, mais en tout cas, j'avais parlé du livre Fallers de Chloé Delhomme. J'avais passé aussi des sons que le groupe dans le livre joue, mais dans la vraie vie, c'est Chloé Delhomme qui a interprété des titres, etc. Et là, en fait, elle a fait un appel à soutien pour la réalisation du clip de Ouin Ouin Boogie.
Ça va avec la mixité choisie d'avant.
Il y a tout ça. Et en fait, là, il reste 3 jours. Elle est à 88% de l'objectif. Donc, celles et ceux qui ont un petit peu de thunes, il ne s'agit pas de donner 150 balles. Vous pouvez donner, je crois, même 5 balles ou 10 balles.
En tout cas,
si vous avez un petit peu de thunes, allez sur proarti.fr et vous allez tomber dessus et vous pouvez donner ce que vous voulez si vous voulez voir des phallus exploser. Ce sera un spectacle absolument grandiose, je pense. En tout cas, voilà.
Magnifique.
On arrive à la fin.
Oui.
Quelques rappels.
Oui, alors ouais. Je vais les faire. Allez. Donc du coup, si tu veux réécouter les émissions, celles-là ou celles qu'on mettra en ligne demain vraisemblablement, ou les précédentes, donc c'est sur le blog de La Causerie, donc c'est à blogs avec un S, radiocanu.org/lacauserie, ou tu vas sur radiocanu.org, tu cherches La Causerie, on y est, tu nous trouves, et après tu vas trouver notre blog assez facilement. Si t'as, si t'es un amateur de podcast ou de baladodiffusion, comme diraient nos amis québécois, eh ben tu vas sur ton agrégateur de podcast ou de baladodiffusion habituel. Et tu tapes La Causerie Canu, et normalement tu as soit toutes les émissions, soit les 10 dernières, ça dépend comment il agrègue, mais en tout cas voilà, tu peux nous trouver pour nous réécouter tranquillement sur ta plateforme habituelle. Sinon, si tu es plutôt du genre à te dire, tiens, j'irai bien sur Facebook, t'as le droit comme nous d'être vieux, c'est pas interdit. Donc du coup, tu vas sur Facebook et puis tu tapes La Causerie, mais là en fait on fait que partager les émissions.
La Causerie Canu, pardon.
Si tu veux partager l'émission, c'est avec plaisir. Si t'as envie de la partager sur d'autres réseaux et la faire connaître, c'est encore mieux, et on te remercie par avance de le faire, parce que nous on est une petite radio indépendante qui n'avons pas les moyens de faire des pubs 4x3, et on n'a pas Bolloré derrière nous, et tant mieux. Donc du coup on compte sur nos auditrices et auditeurs. Et si tu veux nous écrire, c'est à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Et oui, Denis, parce qu'il y a un Denis qui a écrit, j'ai bien lu ton message qui était sur la messagerie de La Causerie, et que tu te demandes pourquoi on utilise une adresse Gmail alors qu'on a parlé de se protéger du numérique. Et je te répondrai dans la prochaine émission.
Je n'avais pas vu.
Voilà. Okay.
Très bonne question.
Mais c'est une excellente
question. Oui, c'est
question.
Vrai, tu as raison.
Donc voilà, on la prend parce qu'elle est bonne.
C'est vrai. Merde, je voulais rajouter un truc, je ne sais déjà plus. Bon, c'est pas grave.
Tu voulais peut-être rappeler aux gens d'écouter tout Radio Canu.
Non, pas. Alors oui. Le mec en dissidence totale.
Super.
Non, vraiment, on n'écoute rien d'autre que La Causerie. Non, c'est pas vrai. Non, je voulais dire, si vous voulez des stickers. Personne n'en veut, mais je demande toujours, si vous voulez des stickers de La Causerie pour coller autour de vous ou juste sur votre frigo, vous avez bien le droit. Ben pareil, passez par le mail, on vous enverra.
Ou le blog, d'ailleurs, vous pouvez laisser ça en commentaire.
On vous enverra de quoi satisfaire votre porte de frigo.
Donc le mail, lacauseriecanu@gmail.com, avant qu'on en change peut-être ou pas.
C'est ça.
Voilà. Et sinon, moi, je voulais juste
encore,
dire.
Encore, il est l'heure.
Ouais. Et après, parce que tu parlais justement d'interroger les religions, tout ça et tout.
Oui.
Il y a un excellent film qui vient de sortir qui s'appelle Hérétique, qui est un film plutôt d'un thriller un peu hard, mais qui est très très bien. Et moi, je vous le conseille. Ça fait du bien de voir des interrogations posées même au travers d'un psychopathe, parce que des fois, c'est plutôt cool que le cinéma de genre s'empare parfois de questions qui ne sont pas si anodine que ça. Et en face, oui, certains films un peu durs, mais intéressants. Donc Hérétique, c'est en ce moment au cinéma.
Hérétique.
Voilà. Avec Hugh Grant. Ça va faire aller tous les gens qui aimaient Hugh Grant. Bon, il est un peu plus flippant dans le film. Là.
À peine. On se donne rendez-vous nous dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Normalement, peut-être en équipe complète, on verra. Parce que oui, bon courage aux Lyonnais et Lyonnaises les quelques jours qui arrivent. Parce que si tu ne nous écoutes pas de Lyon, sache qu'à Lyon, il y a une superbe formidable fête des Lumières qui ramène du monde à souhait, et c'est assez invivable pour les Lyonnais et Lyonnaises. En tout cas, ça devient très chiant de prendre les transports, de se balader, etc., parce que tout est enfermé, cloisonné, c'est assez horrible. Et en dehors de ça, on va se quitter en musique avec un titre choisi par Clara, parce que même si elle n'est pas là physiquement, elle est avec nous quand même. Et c'est un titre de Jeanne Haddad, et le titre c'est Off My Back.
Ouais.
Et on vous donne donc rendez-vous nous dimanche prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu.
Exactement.
D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.
Des bisous. Salut. Ciao.